Alors Tahar Ben Jelloun, c'est un écrivain, vous le savez, c'est un poète marocain de langue française. Il y a au moins deux romans qui l'ont mis sur le devant de la scène. C'est L'Enfant de Sable en 85 et sa suite en 87, La Nuit Sacrée, qui lui a permis d'avoir le Goncourt. Il paraît que c'est l'un des écrivains français les plus traduits. J'ai noté 43 langues, extraordinaire. Et justement, donc en 98, le petit essai qui a eu un grand succès, Le racisme expliqué à ma fille, j'ai noté qu'il y avait eu 25 langues de traduction. C'est colossal tout ça, Tahar Ben Jelloun.
Bonsoir. Colossal, non, parce que je pense que le racisme est planétaire et que beaucoup de gens dans le monde veulent savoir pourquoi la haine, pourquoi l'exclusion. Et depuis, là, on est arrivé à 33 langues. Et ce qui me ravit, parce qu'en plus, ce n'est pas un livre personnel, ce n'est pas un livre littéraire, c'est un petit manuel pour aider les gens à lutter contre cette bêtise. Et c'est un petit manuel que je porte tout le temps dans le monde, parce qu'à chaque fois que je vais dans quelque part, je demande à rencontrer les enfants, parce que je pense que c'est par là qu'il faut commencer pour avancer. Les adultes, on peut leur écrire des romans, mais les petits, ils ont besoin qu'on leur explique les choses, et je l'ai fait avec mon cœur et avec la plus grande sincérité.
Bien. Alors, si vous êtes ici parmi nous ce soir, c'est parce que vient de paraître chez Gallimard, Sur ma mère, alors avec un sous-titre Roman. Alors, en résumé, on pourra dire que c'est les dernières années de la vie de votre mère. Et j'ai l'impression, enfin à la lecture, on s'aperçoit que c'était vraiment une femme tout à fait extraordinaire.
Toutes les mères sont extraordinaires, mon cher ami. Je ne pense pas que... Mais c'est vrai que la relation que nous avons dans l'autre côté de la Méditerranée avec nos mères sont des relations un peu spéciales, un peu fortes, parfois possessive, parfois encombrante, mais jamais de relations conflictuelles. Le conflit, on le laisse pour autre chose. Et il y a cet amour entre la mère et les enfants, parce que nous sommes dans une société où l'individu n'a pas été reconnu, n'a pas émergé. Alors qu'en Europe, en Occident, ce que nous voyons tous les jours, c'est quand même l'émergence et surtout la victoire de l'individu sur le clan et la famille. Et évidemment, c'est un élément de la démocratie dans une société lorsque l'individu existe. Lorsque l'individu, c'est celui qui a une voix, et cette voix est donc à son poids. C'est pour ça qu'il y a le vote. Et puis l'individu, c'est celui qui décide de sa vie et qui n'est pas en train de perpétuer un système déjà fait. Alors, dans la société marocaine, l'individu essaie d'émerger, essaie d'exister, mais la famille est toujours omniprésente et puissante pour de bonnes raisons et de mauvaises raisons. Alors, pour ce qui est de la relation avec la mère, je dirais que ce sont de bonnes raisons, et parce que on nous a appris tout jeune, tout petit, que le respect des personnes âgées, des parents d'abord, vous avez appris les parents et ceux qui vous enseignent quelque chose, qui vous apprennent quelque chose, eh bien, c'est un respect quasi religieux. Il n'y a pas à discuter, on respecte, point à la ligne. Il n'y a pas à dire pourquoi ni comment. C'est comme ça, on ne va pas contester l'autorité du père ou de la mère, on ne va pas contester l'autorité de l'enseignant, l'instituteur ou l'institutrice. On est là pour apprendre. Et ça, c'est une chose que moi, j'ai vécue personnellement. J'ai tout parmi les derniers à l'avoir reçu. La génération d'aujourd'hui, c'est autre chose. On est dans une, même au Maroc d'aujourd'hui, il y a une évolution très 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 rapide où le voisinage avec l'Europe, qui est quand même, ce voisinage est pas mal irrigué par les 4 millions de Marocains à l'étranger qui sont en Europe et qui arrivent, qui font des enfants ici. Ces enfants reviennent souvent au Maroc, mais ils reviennent avec une mentalité, avec une conception de la vie et des relations humaines différentes. Donc les choses bougent et changent. Et la chose que je souhaite, c'est qu'on ne change pas la relation avec justement nos vieux. Parce que c'est une chose qui a une valeur qui n'est pas marchande, qui n'a pas de rentabilité, mais qui est la gratuité même.
D'accord. Donc votre livre est organisé en 37 chapitres, plus ou moins longs. Et là-dedans, on s'aperçoit, alors il est organisé assez, de façon assez intéressante, puisqu'il y a une partie qui est écrite en caractère romain, je dirais, une partie qui est écrite en caractère italique, et on se retrouve avec donc votre mère qui a une maladie un peu beaucoup.
C'est la vieillesse.
Oui.
La vieillesse, c'est quoi la, enfin, la vieillesse, c'est lorsqu'il y a une déchéance physique et mentale, c'est lorsque la personne n'est plus dans le coup, n'est plus là pour exister avec toute l'élégance, toute la beauté, toute la, disons, la présence. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal. C'est malheureusement le lot commun de milliards de gens. C'est pas spécialement au Maroc. J'ai dit, en écrivant ce livre, j'ai écrit sur toutes nos mères. Je pense que, quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, eh bien, il y a un moment où il y a cette, ce que j'appelle la mort, parce que la mort, c'est pas l'arrêt du cœur pour moi. La mort, c'est la maladie, comme avait dit Marguerite Duras il y a longtemps. C'est-à-dire cette période qui a duré chez ma mère à peu près 3 ans, où elle est frappée d'injustice. Pourquoi souffrir? Pourquoi perdre un peu la raison, perdre la mémoire, perdre le contrôle de soi, avoir des perturbations physiques? Pourquoi on arrive là? Alors évidemment, c'est une question, je ne peux pas y répondre, mais lorsque nous vivons cela de très près, il s'agit de votre mère, de votre père, de quelqu'un que vous aimez, eh bien, vous ne comprenez pas et vous trouvez que c'est une injustice et que c'est de... Enfin bon, mais ça, c'est un peu la logique qui parle, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer.
Alors, en 1990, vous aviez déjà fait « Jour de silence à Tanger », où vous aviez décrit la vieillesse de votre père.
Oui, mais là, c'était beaucoup plus ludique. Mon père n'a pas été malade. Mon père est un homme qui était... Enfin, c'est encore une fois un personnage composé de plusieurs, parce que moi, c'est la littérature, c'est pas le, je ne fais pas de documents, j'invente, etc. Mais dans « Jour de silence à Tanger », le personnage du vieux monsieur n'avait pas beaucoup de problèmes physiques ni mentaux. Il avait toute sa tête. Mais il râlait parce qu'il devait quitter ce monde. Il n'avait pas envie de partir. Il n'était pas malade. Enfin, il avait un peu de bronchite, un peu bon, normal. Il comprenait pas, par exemple. Sa vue baissait. Et puis, son ouïe baissait. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Alors je lui dis, mais c'est comme tes cheveux, t'as plus de cheveux. Il dit, mais non, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que je ne vois pas bien? Pourquoi? Alors évidemment, c'était quelqu'un d'un peu révolté, un peu, mais c'est un livre que j'ai écrit pour lui. Il était vivant, et il a même lu quelques passages en arabe. Il est décédé accidentellement, pour vous dire. Et c'est un livre beaucoup plus ludique, beaucoup plus, disons, j'avais pas connu cette maladie de, qu'on peut appeler Alzheimer pour aller vite, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs formes de cette maladie. La maladie de ma mère était assez pittoresque, c'est-à-dire que elle se souvenait plus de ce qu'elle a fait à l'instant présent, mais elle avait une sorte de mémoire extrêmement précise de son enfance. Et elle évoquait son enfance en brouillant les temps. Elle prenait la voix de la petite fille, elle jouait avec des chiffons qu'elle pensait être des poupées, elle disait, mon papa va arriver, il faudra que je lui dise de m'acheter un cadeau. Enfin, et nous, on était là, oulala, ça va mal. Mais au début, on ne savait pas comment réagir, parce qu'on ne sait pas s'il fallait aller dans son sens ou lui dire, attention maman, mais arrête. Mais alors, ce qui nous a aidés, c'est qu'elle a été assez extraordinaire, parce qu'elle avait des moments de lucidité. Elle redevenait parfaitement elle-même. Elle dit, oh, tu te rends compte, tout à l'heure j'ai dit tellement de bêtises, mais ça va pas, mais je suis, ça va pas du tout, hein. Bon, vous m'excusez, là, j'ai dit certainement des bêtises parce que, à voir votre tête, vous étiez complètement paumé. Là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Alors, c'était. Il y avait ce jeu. On ne pouvait pas toujours avoir de l'humour dans ces cas-là. On était un peu blessé.
Alors, dans ce livre, justement, quelle est la part de réalité? Quelle est la part de fiction? Parce que vous l'appelez quand même roman.
Ah non, il y a beaucoup de fiction. Non, parce que c'est, sinon, j'aurais fait un petit essai. L'Alzheimer expliqué à ma fille, un truc comme ça. Non. C'est un vrai roman parce que, comme tout roman, comme toute littérature, on part de réalité, on part de faits qui sont arrivés ou sont en train d'arriver, et puis on transforme les choses. Alors, moi, ce qui est vrai dans le livre, ce sont des anecdotes. C'est la partie, je dirais, anecdotique du livre, c'est-à-dire ces souffrances physiques, ces relations avec les deux femmes qui s'occupaient d'elle, la maison, mais tout le reste, je l'ai inventé parce que je ne connaissais pas du tout la vie de ma mère. Pas parce que elle m'était étrangère, parce que c'était ma mère. Et avec ma mère, avec nos mères, on ne se fait pas de confidences. En tout cas, elle n'en faisait pas. Elle n'allait pas nous raconter sa nuit de noces, ses amours, si elle en a eu. Ça ne se fait pas.
Oui, oui.
Ça ne se fait pas, des choses comme ça. C'est, aujourd'hui, quand je vois certains livres européens ou même films, je vois les relations entre les parents et les enfants, c'est des copains, on se raconte, on s'échange les emails. Non, ma mère, c'était ma mère. Elle ne va pas me dire voilà comment j'ai vécu ma première nuit de noces. Alors j'imaginais ça. Évidemment, avec sa mémoire qui revenait en arrière, elle lâchait certaines informations que je ne connaissais pas.
Mais vous ne saviez vraiment pas qu'elle avait été mariée 3 fois?
Si. Non, même. Je savais qu'elle a été mariée plusieurs fois, mais pas parce qu'elle était séductrice, même si elle était très belle. Mais elle n'a pas eu de chance, le premier mari, parce que j'ai une demi-sœur et un demi-frère et un frère. Donc, je ne pouvais pas ne pas le savoir, mais je ne connaissais pas les détails.
D'accord.
Alors, quand je lui dis, mais...
Elle s'est mariée très jeune aussi. Elle s'est mariée très jeune aussi.
À 15 ans. Elle m'a dit, j'étais veuve à 16 ans. Alors, vous imaginez, alors... Je dis, mais comment ça se passe? Ah, le pauvre était très gentil. Il m'a jamais décrit son premier mari, comment il était, ni rien. Ah, une très forte fièvre est arrivée, elle l'a emporté. Il n'y avait pas d'autres informations. Alors, évidemment, c'est à travers ce qui lui est échappé que j'ai pu reconstituer sa vie. Et ce qui m'intéressait en tant que romancier, c'est d'imaginer le pays, c'est-à-dire la ville de Fès, telle qu'elle était dans les années 30. J'imagine que les années 30,
donc c'est-à-dire avant votre naissance.
Je suis né en 44, donc j'imagine qu'elle a dû se marier en 1928 ou 30 la première fois. Elle avait 15 ans, donc ça devait être ça. Et j'imaginais ça dans sa nuit de noces. Je raconte comment les préparatifs, les rituels, et tout cela je l'ai inventé, bien sûr, parce que ça ne correspond pas à la réalité vraie, mais ça correspond à une ambiance, à une situation historique d'un Maroc. Alors, c'est plus ça parce que Fès, qui était fondée en l'an 808, n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la Médina de Fès, pour ceux qui connaissent, est une vieille ville qui ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'il y a l'électricité qui passe, mais sans plus. C'est-à-dire que les rues sont très étroites et tout. C'est une ville où moi je suis né, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, où tout le monde se connaissait. Alors donc c'était pour moi plus facile de recréer ce Fès-là, parce qu'il suffisait d'aller faire un tour et de revoir le Fès de ma naissance.
Alors on s'aperçoit en lisant le livre que à partir du moment où ils ont déménagé, vos parents, où ils sont allés à Tanger, on a l'impression qu'il y a une certaine forme de, comment dirais-je, de nostalgie qui a commencé à se greffer dans leur vie.
Tanger, c'est l'Europe déjà. Parce que vous arrivez de Fès,
ouais.
Vous arrivez du 9e siècle et vous débarquez au 20e siècle, ni plus ni moins. D'abord, on arrive dans une ville quasi européenne, il était international à l'époque. On arrive, on trouve une plage immense avec la Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre. Beaucoup d'Européens qui quittaient. Il y avait des Espagnols qui vivait dans des quartiers avec les musulmans. Tout est mélangé, les juifs, les chrétiens, les musulmans. C'était une ville cosmopolite. Et pour nous, même pour moi, c'était une révolution. Alors ma mère, la pauvre, n'avait plus de repères. Elle était dans une autre... C'est comme une immigrée qui arrive à Paris, venant de sa ville natale.
D'accord. Alors ce livre, à la fin, on s'aperçoit que vous l'avez écrit entre août 2001 et mai 2007.
Non, j'ai commencé en 2001, j'ai arrêté. Parce que j'écrivais pas pendant que j'étais avec elle. Pendant que j'étais avec elle, j'écoutais, j'observais. Je lui tenais la main et je m'ennuyais beaucoup. Et je ne pouvais pas faire autrement. S'ennuyer, ce que j'apprends... L'autre jour, un de mes enfants me dit, papa, je m'ennuie. Il dit, mais il faut apprendre à s'ennuyer. C'est bien s'ennuyer, c'est pas mauvais. Alors, évidemment, cet ennui, au bout d'un certain moment, il devient intéressant. Parce que j'étais là, et, alors elle somnolait, elle dormait, elle se réveillait. Mais le fait de savoir que j'étais là, ça l'apaisait. Mais moi, je ne pouvais pas faire autre chose. Alors, parfois, je lisais, parfois, je griffonnais des petits mots, mais j'écrivais beaucoup plus tard. Après, j'ai écrit donc une première version que j'ai laissée reposer 3 ou 4 ans. Alors, je l'ai reprise, j'ai retravaillé. Alors, j'ai surtout retravaillé l'aspect inventé, tout l'aspect de Fès, tout ça. Là, j'ai beaucoup travaillé.
Alors, ce livre est aussi dédié à vos enfants. Alors, vous essayez de faire le pont, qu'est-ce que c'est ?
C'est clair. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que...
Ils l'ont déjà lu ?
Ben, ils sont petits. L'aîné l'a lu. L'aîné a 21 ans. Je n'ai pas encore eu son avis. Mais moi, je suis plutôt pessimiste parce que je pense que... Mes enfants, c'est des petits Français. Hein, c'est pas, ils adorent le Maroc. Ils y vont très souvent. Mais nous sommes quand même porteurs de l'environnement dans lequel nous sommes nés, dans lequel on a évolué. Et mes enfants probablement réagiront comme réagiront les Européens. Je sais pas, je n'en sais rien. Je ne veux pas faire de, c'est pas d'actualité en tout cas. mais pour le moment, mes enfants, j'essaie un peu de leur transmettre cette valeur de respect, de irrationnel, parce que parfois ils disent pourquoi. Mais j'essaie, mais je ne sais pas si je vais y arriver.
D'accord. Alors votre mère était très croyante. Alors, est-ce que cette épreuve, cet accompagnement a quelque part changé un rapport au sacré que vous avez, vous ?
D'abord, autant mon père était un croyant rebelle, qui râlait tout le temps, qui trouvait que ça allait pas, lui était une espèce d'anarchiste. Autant ma mère était une croyante classique, elle était paisible avec elle-même, tranquille, elle parlait de la mort avec une sérénité extraordinaire. Elle disait, bon, mourir, bien sûr, ça fait partie de la vie. Si je mérite, j'irai voir le prophète. Enfin, elle était très, très, très paisible. La seule chose qui la dérangeait dans la mort, c'était la souffrance, bien sûr. Et puis, elle nous disait, surtout, ne me faites pas passer une nuit dans la morgue, qu'elle appelle frigo. Parce que c'est quelque chose qui lui a... Parce que mon père a passé la nuit dans la morgue. Et c'est quelque chose qui l'a tellement impressionné qu'évidemment, on l'a gardé à la maison.
D'accord. Mais vous, alors, ça a changé quelque chose ? Votre rapport à la croyance à...
Moi, je suis très spiritualiste. J'ai beaucoup plus de liens avec l'esprit qu'avec la religion. La religion, je trouve, de plus en plus très encombrante dans notre vie actuelle. Parce que facilement détournable, facilement exploitable, et que ça devrait rester une affaire vraiment privée et dans un espace laïque et non pas dans un espace public. Et je suis pour une laïcité de respect, bien sûr. La laïcité, c'est pas le contraire de la religion, c'est le respect de toutes les religions et la séparation de la religion avec les affaires publiques, ça c'est normal. Moi, je suis plus dans la spiritualité. Et tous ces rituels religieux, je respecte si ça peut évidemment enlever l'angoisse à des personnes, pourquoi pas. Mais je suis enclin à quand même méfier de toutes les de tous les détournements qu'on peut faire de la religion.
Pourtant, jusqu'à présent, le Maroc est assez, comment dire, un peu éloigné des extrémistes, quand même, non ?
Pas vraiment, parce que l'extrémisme existe. Il est bien sûr pas violent comme en Algérie ou dans d'autres pays du monde, mais il y a un islamisme qui existe parce que il y a eu une faillite politique et culturelle du pays qui a ouvert le champ à l'extrémisme. C'est ça. Quand il n'y a pas de lieu où consommer la culture, les gens vont dans les mosquées.
D'accord. Vous qualifiez votre geste, le fait d'accompagner votre mère et de la tenir par la main, de geste égoïste. Alors vous pouvez un peu expliquer pourquoi quand même ?
Moi, je pense que ceux ou celles qui sont passés par cette épreuve vont me comprendre. Personnellement, quand j'étais avec elle, je le faisais naturellement. Je ne me forçais pas. Ce n'était pas une corvée. Si j'y allais naturellement, je passais des heures et des heures à m'ennuyer tranquillement. Mais en même temps, je me préparais à ne plus la voir, je me préparais à la quitter. Vous comprenez, elle allait nous quitter absolument. Mais en même temps, je me préparais à son absence. Et ce qu'on appelle le travail de deuil, qui est une expression un peu galvaudée, s'est avéré beaucoup plus facile. Je me suis rendu compte que le fait de l'avoir tenu compagnie pendant tant de mois m'a aidé à accepter le fait qu'elle ne soit plus là. Et j'ai fait autre chose, je n'ai plus remis les pieds dans la maison dont je pars dans le roman. D'ailleurs, la maison n'existe plus, elle a été vendue, je ne sais pas, quelqu'un a fait autre chose avec. Mais j'ai détruit un peu tous les objets, les choses qui pouvaient évoquer son souvenir. Son souvenir, il est en moi, il n'est pas dans des reliques ou des objets. Et en même temps, cet égoïsme-là n'est pas négatif, c'est pas mauvais d'être égoïste de temps en temps. C'est de penser à soi, penser à la douleur qu'il faut transporter d'un lieu à un autre et comment la cadrer jusqu'à ce qu'elle passe. Parce que il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un vous manque terriblement, il n'y a rien à faire. C'est ça ce qui est terrible, c'est le fait de se rendre compte que la vie, eh bien, ce sont ces moments-là est terrifiant, ces moments-là qu'on ne peut pas négocier avec ni l'argent, ni le pouvoir, ni la gloire, ni rien. Eh bien, à ce moment-là, il faut peut-être avoir la sagesse, la spiritualité.
Et a priori, cette douleur, ça fait ce rapport avec votre mère, vous l'aviez préparé a priori ou
c'est... Pas a priori, non. Moi, je me suis rendu compte après coup. Hein. En fait, j'ai l'exemple d'un ami qui lui, il vit en France. Pendant des années, il accompagnait des gens mourants dans les hôpitaux. J'ai appris que n'importe qui ne peut pas faire ça. Il a fait passer plusieurs tests et tout. Il a été accepté pour tenir la main des personnes en dernier moment de leur vie. Et je ne savais pas qu'il faisait ça. Au bout de 5 ans, un jour, il m'a dit tous les samedis, parce que j'ai appelé, il me dit il n'est jamais là. Il dit, ah, mais tous les samedis, je vais tenir la main à des personnes mourantes qui ne le connaissaient pas. Parfois, il établissait un lien, ça dépendait. Mais il m'a dit quelque chose de formidable. Il m'a dit que c'était très apaisant, souvent, pour les personnes malades. Et c'était apaisant pour lui aussi. C'est-à-dire que le fait de tenir la main à quelqu'un avec lequel il n'a pas de lien affectif ou historique, le mettait dans une situation absolue. Alors, il était là gratuitement, il ne demandait rien. Ni un retour d'amour, ni un retour de quoi que ce soit. Et il m'a dit, c'est comme ça que j'ai appris à mourir. Et je pense que les anciens disaient, vivre, c'est apprendre à mourir. Je pense que c'est sans faire un drame ou sans tomber dans la tragédie ni la caricature. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'apprenons pas à mourir. Nous apprenons à beaucoup plus à paraître, à faire du bruit. En tout cas, nous sommes entourés de bruit, de tout genre, d'agitation. Mais nous ne sommes pas entourés de réalité paisible qui nous rappelle que nous devons tous partir. Mais il faut savoir quitter ce monde avec dignité, même si parfois c'est difficile. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Ce que j'appelle égoïsme, c'est quelque chose de positif. C'est penser à apprendre. On passe notre temps à apprendre à vivre avec les gens. Il faut aussi garder un espace pour apprendre à mourir avec les gens et à disparaître.
C'est un apprentissage, pas forcément pour l'au-delà, mais c'est un apprentissage qui...
Pour soi, parce que cet ami en question n'est pas croyant, c'est pas quelqu'un qui va ni à l'église, ni à la synagogue, ni à la mosquée, c'est quelqu'un qui a une idée de la mort et de la vie et qui prépare sa propre vie à ça. C'est un choix. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça, il y en a qui affrontent toutes les situations avec beaucoup de force, mais ça... J'en connais pas beaucoup. Mais enfin, il y en a qui arrivent. Mais je pense que ce roman, il fonctionne depuis que je l'ai écrit. Des gens m'envoient des témoignages sur mon site internet. Tout ça, ils me disent vous m'avez aidé à accepter. C'est ça, vous avez trouvé les mots pour dire ce que je voulais dire à propos de ma mère ou de mon père. Mais c'est ça la littérature. Moi, je pense que la littérature, elle ne va pas changer les êtres humains, elle ne va pas changer le monde, mais elle peut contribuer un petit peu pour quelques personnes comme ça, mais de manière très, très, très modeste, hein, il ne faut pas non plus se faire beaucoup d'illusions, à contribuer un petit peu à aider.
Alors, votre mère s'appelait Lala Fatima, c'est ça?
Lala Fatima, oui.
Et alors, vous l'appelez un peu partout Yema?
Yema, c'est ma mère en arabe. Mais c'est un arabe pas classique, c'est un arabe dialectal. C'est comme Ma, par exemple, parfois, oui, Ma.
Alors, elle est accompagnée de deux dames assez extraordinaires qu'on voit assez souvent. Il y a Keltoum, qui au début, on la trouve un peu... Elle est un peu rude au début. Hein.
Alors, moi, je pense que... Il y a toujours dans...
Elle a vraiment existé, Keltoum?
Pas telle qu'elle est dans le roman. Dans le roman, elle est adoucie.
D'accord. Ah oui. Ah d'accord. Donc c'était bien. Moi, ma première idée était bien bonne, oui. Parce qu'au début, vous avez quelques phrases assassines.
Mais c'est très humain. Imaginez une personne qui d'abord est arrivée au service de ma mère pour l'aider. C'était pas ni une domestique ni une bonne. C'était une femme qui venait pour aller faire les courses, l'accompagner. Elle sortait avec une elle est devenue petit à petit une sorte d'amie. Mais ils étaient tellement différentes, de classes sociales très différentes, de cultures différentes, de tout. Et forcément, quand ma mère est tombée malade, elle s'est occupée d'elle à sa manière. Bon, il y avait toujours une autre femme, Rahimou, qui faisait le ménage et tout, mais ma mère, elle est devenue petit à petit. Et ça, c'est une relation perverse que nous connaissons tous dans les lieux de survie, je dirais, comme les hospices, tout ça. On voit très bien une forme d'exploitation de la faiblesse ou de la maladie. Ça arrive très souvent. Et cette femme... faisait un chantage à ma mère parce qu'elle lui dit tu me donnes ça ou je m'en vais et tu vas, parce qu'elle tenait toute la boîte de médicaments. Alors elle dit, ben, je ne donnerai pas ton médicament si tu... oui, mais c'est évidemment c'est dégueulasse, mais j'ai dédramatisé parce que ma mère avait peur de cette femme, elle avait vraiment peur. elle ne me disait pas qu'elle a laissé son médicament ou qu'elle parfois elle n'aidait pas à manger ou parfois même elle l'a maltraité. Elle avait peur. Elle avait peur qu'elle réellement la laisse seule. Et c'était la panique. Et il y a une raison majeure pour cela, c'est que un jour ma mère m'a dit, mais tu sais, je ne me retiens plus. Et évidemment, ma mère ne parle pas comme moi je parle dans le roman. Moi, je dis la mère dans le livre, mais dans la vie, elle ne disait pas ça. Elle dit, elle ramasse tout ce qui m'échappe. Bon. Et c'est vrai que un jour, je vais vous lire tout à l'heure un passage là-dessus. Je me suis penché sur ma mère pour l'embrasser. Elle sentait mauvais, elle sentait la merde. Et c'est quelque chose que... Alors, j'avais acheté des couches, mais elle ne voulait pas les mettre, elle les jetait, etc. Ce sont des choses de la vie quotidienne qui sont difficiles pour un fils ou mon père, une fille, à supporter. Donc, on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui n'a pas le même lien pour faire ce travail ingrat. Alors, pour cela, on fermait les yeux, on disait, bon, c'est pas grave. Mais enfin, c'est un personnage qui existe dans toutes les... situation, c'est pas uniquement dans le roman, c'est pour ça que c'était un personnage un peu emblématique. Il est dans toutes les situations semblables à celles que je raconte dans le livre.
Exactement. Et également, votre mère ne lisait pas?
Ben non. Elle était d'une génération, la pauvre, qui n'a jamais été à l'école. Elle sortait uniquement pour aller au hammam. Et le hammam durait longtemps parce que c'était l'occasion pour elle de rencontrer d'autres personnes pour parler et tout. Alors quand j'étais petit, je l'accompagnais, ce qui a fait dire à Bernard Pivot dans son article sur ce livre, parce qu'il a fait un article sur mon livre, celui de Jacques Chessé, qui est un Suisse qui lui avait une relation très distante avec sa mère. Il dit, au moins Tahar a vu le corps de sa mère, le sexe de sa mère, ce que Chessé n'a jamais vu. Bon, mais j'ai évidemment un souvenir très, 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 très flou, très lointain, mais c'est quand même une accompagner sa maman au hammam, à 3 ans, 4 ans, on se dit, ce gamin, il comprend rien. De toute façon, mais c'est une erreur. Les gamins de 4 ans, ils sont très, très, très au courant de beaucoup de choses. Donc, c'est une relation absolument extraordinaire qui n'a pas de... Évidemment, on ne peut pas comparer avec ce qui se passe dans une société autrichienne ou suisse. Quoique je compare dans le livre l'histoire de Zili, qui est la mère d'un ami suisse, qui est vraiment une autre histoire, différente.
Vous voulez lire peut-être un petit, oui. Un petit passage. Et après, si vous avez des questions, je crois qu'on peut, on peut attaquer peut-être les questions.
Alors, je tiendrai le micro. Non.
J'ai donné à manger à ma mère. Ma mère, mon enfant. Une cuillerée de lait et de fromage. Une petite fille qui mange, les yeux fermés, et mes mains tremblent d'émotion. Les larmes me montent aux yeux et j'abandonne. Keltoum prend le relais et la nourrit comme elle en a l'habitude. Je sors de la chambre et j'essuie mes larmes, en pensant non plus à ma mère, mais à mes enfants. Je ne sais comment s'est fait le transfert. Prendre sa main, sentir les os sous la peau flétrie, lui parler, lui raconter une histoire et attendre un signe des paupières ou des lèvres bougeant à peine. Les souvenirs ont besoin de soleil, de lumière et de musique. C'est l'été sur la terrasse de la maison de Marchen, face à la mer. Le vent d'est est furieux, ce qui énerve ma mère. Et elle dit regretter l'époque où elle vivait à Fès, dans la Médina, où jamais le vent ne s'aventurait. Je l'observe et je la revois serrant un foulard autour de la tête. Elle aimait regarder la mer et ses petites vagues blanches annonçant l'arrivée imminente de ce vent réputé rendre fou les caractères irascibles. Dans cette lumière équivoque du passé, des voix se croisent, des regards se mélangent à la recherche d'une belle sérénité. Ma mère a toujours été sereine. Elle n'a jamais perdu totalement cette capacité d'être présente au monde avec calme et élégance. Aujourd'hui encore, c'est ce qui prime chez elle. Peut-être que sa contrariété principale vient de la souffrance qui s'en prend à cette élégance intérieure qu'elle a toujours eue naturellement. Elle sourit, puis ferme les yeux. Elle n'a pas envie de se voir réduite à l'état d'une enfant malade. Elle s'en va dans les ruelles de Fès et passe tout l'après-midi au mausolée Moulay Idriss. Elle dit que c'est son ancêtre, venu d'Arabie en l'an 808, fondé la ville de Fès. Elle lui parle et lui confie ses inquiétudes, le charge de veiller sur la santé de son fils malade et d'inciter son autre fils à réussir dans ses études. Ô Moulay Idriss, le saint des saints, l'homme le plus proche de Sidna Mohammed, notre prophète, écoute ma prière, ne m'oublie pas, fais en sorte que la maladie s'éloigne de ma maison, fais en sorte que ta lumière nous ouvre la voie du bien. Ô Moulay Idriss, patron de la ville, homme de bien, sois le messager de ma confiance, de ma foi, que ma maison soit pleine de ta lumière. Donne-moi un signe pour que je continue à avoir la santé, pour m'occuper de mes enfants, de mon mari qui n'a pas de chance. Éloigne de nous le mauvais œil, l'œil des envieux, des jaloux, l'œil mauvais de ceux qui pactisent avec Satan. Je ne sais pas répondre au mal qu'on me fait, je ne sais que prier. Je ne connais que la route qui mène vers toi. Ma mère a toujours été coquette et n'a jamais porté des couleurs sombres. Elle adore le blanc, le jaune pâle, le beige. Pour elle, les couleurs doivent aider le cœur à battre. Il ne faut pas noircir les choses. Une couleur apaisante est une ouverture sur la vie. Elle prenait un soin particulier à choisir ses foulards. Elle en avait une bonne quantité. Je ne me souviens pas avoir vu ma mère les cheveux au vent ou la tête nue. Quand elle était à la clinique et qu'elle dormait, le foulard avait glissé un peu et laissé voir une partie de ses cheveux blancs. J'ai détourné la tête et n'aurais pas aimé montrer ses cheveux. Ma mère n'aime pas être dans une pièce mal éclairée. Elle réclame la lumière. Elle dit « La lumière ouvre et apaise les cœurs. C'est signe de réjouissance, c'est signe de générosité. » Un de mes oncles était très économe, disons avare. Quelques bougies auraient suffi pour éclairer sa maison. Il vivait caché. Sa femme aussi avait peur de la clarté et de la lumière. Des gens qui ne voulaient pas se montrer en plein jour. Le mauvais œil était plus leur hantise. Alors, ils vivaient dans une semi-clandestinité. Pour eux, le regard des autres ne pouvait qu'être nuisible. Alors, pas de lumière. Ma mère n'aimait pas aller chez eux. Elle respectait leur manie et aussi leur petite mesquinerie. Quand ils venaient chez nous, il s'étonnait de voir tant de lumière. Mon oncle disait, c'est du gaspillage, on n'a pas besoin de toutes ces ampoules allumées pour se voir. Ma mère n'aimait pas les avares, mais elle ne les jugeait pas. Elle disait, chacun vit comme il veut, je n'ai rien à dire. Je préfère ne pas fréquenter des gens qui pensent que l'argent est plus important que les êtres. L'argent, c'est ce que nos ancêtres considéraient comme la mauvaise poussière de la vie, les détritus du temps. Alors que ceux qui le ramassent, sache que dans un cercueil, il n'y a pas de place pour des comptes en banque.